Révolution médicale, une émission de René Friedman. Aujourd'hui, une émission exceptionnelle puisque nous diffusons dans Révolution médicale la table ronde enregistrée le samedi 13 février à l'occasion du 4e forum France Culture, l'année vue par les sciences. Et nous avons retenu le thème violence extrême, radicalisation. Quelles sont les réponses de la médecine ? En notre compagnie, Serge Effèze, psychiatre et psychanalyste, spécialiste de la famille, qui s'est beaucoup penché sur les phénomènes de radicalisation et de déradicalisation. Henri Corne, neurobiologiste, qui a créé et mis en place le Conseil national consultatif pour la biosécurité et qui nous évoquera les catastrophes nouvelles qui peuvent nous arriver, sur lesquelles il faut se prémunir. Le professeur Louis Géhel, professeur de psychiatrie, qui préside l'association de formation et de recherche des cellules d'urgence médico-psychologique, les fameuses cellules de crise, qui sont interpellées dès qu'il y a un drame du type attentat. Enfin, Anne Poissel sera avec nous, puisqu'elle a participé aux urgences de Saint-Louis, à l'accueil de ces blessés, de ces grands traumatisés, au cours de ces attentats, et nous verrons comment nous faisons face dans l'organisation de la santé à ce type de situation. Eh bien, nous voilà dans une thématique qui n'est pas tout à fait fréquente, soyons clairs, mais qui m'a semblé importante de faire parce que, comme le disait le professeur Pierre Carly, finalement, l'action des services de santé, d'une façon ou d'une autre, s'oppose directement à l'objectif terroriste, puisqu'il cherche par la résistance et son organisation justement à lutter contre la désorganisation et à maintenir la qualité des soins malgré l'afflux des victimes lorsqu'il y a des séries d'attentats, surtout multisites, comme nous avons vécu au mois de novembre. C'est pourquoi j'ai demandé à 4 personnes d'intervenir. Bien sûr, on pourrait avoir sans doute d'autres aspects. Mais j'ai demandé à Madame Anne Poissel, qui est cadre infirmière aux urgences surveillantes et qui était en plus dans l'hôpital Saint-Louis, qui était tout proche des attentats, de nous raconter d'une part son expérience et aussi d'essayer de voir comment est-ce que le système de santé dans les hôpitaux essaye de réagir ou a prévu de réagir en cas d'attentat de ce type. Ensuite, nous verrons avec le professeur Géhel la mise en place des cellules dites psychologiques, enfin de soutien psychologique, les CUMP, médico-psychologiques, qui visent à essayer de soutenir dans l'immédiat, mais aussi un petit peu plus tard, bien sûr, les gens qui ont vécu des choses difficiles, leurs familles, et parfois aussi les acteurs médicaux qui ont aussi à assumer des scènes pas toujours simples. Nous aborderons avec le professeur Corne le risque de la guerre bactériologique parce que nous sommes maintenant sensibilisés aux attentats. Il faut qu'on prévoie d'autres possibilités de terrorisme et nous survolerons, bien sûr, nous verrons pas en détail toutes les possibilités diaboliques qu'il y a dans ce domaine, mais ce sera l'occasion sans doute de revenir dans une autre émission de France Culture sur ce point précis, mais il nous expliquera comment est-ce que les professionnels, les académiciens, en particulier l'Académie des sciences, essayent de faire réfléchir avec les politiques à cette situation. Enfin, le professeur Serge Effèze, qui est psychiatre et qui nous parlera de le fait de la radicalisation, il va répondre un peu à la question que je vais lui poser, à savoir, est-ce que le fait de se radicaliser est quelque chose de psychiatrique ou est-ce qu'il y a dans la déradicalisation des éléments de la science psychiatrique que l'on peut appliquer? Et puis, comme vous le savez, après 7 heures d'entretien, d'expression, il y aura 15 minutes de débat sur lequel on prendra au moins 3 questions, plus si vous levez tous la main, bien entendu. Donc voilà pour la présentation de cette émission. Et tout de suite, donc, Madame Anne Poissel, vous êtes cadre supérieur des urgences de Saint-Louis, qui se trouvait on va dire, au bon endroit, entre guillemets. Vous êtes habitué aux urgences, puisque vous étiez déjà à la Riboisière, où il y avait 80 000 passages à peu près aux urgences, et puis ensuite à Saint-Louis, où vous êtes. Alors, j'aimerais que vous nous donniez d'abord un témoignage personnel, puisque vous étiez, je dirais, très rapidement sur les lieux. Et ensuite, nous aborderons un peu l'organisation, comme je le disais, du système de santé face à ce genre d'événement.
Merci, bonjour à tous. Donc, je suis donc Anne Poissel, cadre supérieure des urgences de Saint-Louis. Donc, nous, notre prise en charge, elle a été très singulière parce qu'en fait, Saint-Louis a été le premier établissement où les patients sont arrivés. Le petit Carillon, le petit Cambodge, il y a eu la première fusillade à 21h25 et nous avons eu le premier patient à 21h42. Donc, en fait, tout a été très vite. À cette heure, bien sûr, il n'y avait pas de plan blanc qui était déclenché. Nous n'avions pas d'informations. Et en fait, nous avons su qu'il y avait une fusillade parce que les gens sont venus nous le dire, parce que cet horaire correspondait en fait aux équipes d'après-midi qui finissaient et qui empruntaient le passage et se sont retrouvés dans les fusillades. Et donc, en fait, très très vite, il a fallu faire face à cela. Saint-Louis est un hôpital de référence, notamment pour l'oncologie, l'hémato, l'urologie et la dermatologie. Donc, il n'y a pas d'orthopédie. Et c'est vrai que pour nous, cette prise en charge de patients, on n'en a pas tous les jours. Donc, 27 patients sont arrivés au niveau des urgences. Il a fallu faire très vite. Par chance, c'était un vendredi. Il y avait des lits dans l'hôpital. Et donc, très vite, il y a eu une grande communication entre le chef de service, qui, lui, l'a su de chez lui et qui a tout de suite appelé la direction, le seigneur des urgences. Il m'a moi-même appelé en disant « Tu peux arriver ?» Et oui, je suis arrivée. Et tous les cas, il y a deux cadres qui sont arrivés automatiquement. Et là, il a fallu très vite trier. Dans les urgences, on dit qu'il y a des urgences absolues, des urgences vitales. Les urgences vitales, on ne peut pas les laisser attendre. Donc très très vite, ces patients sont montés au bloc. Il y a eu une très très grosse collaboration avec les anesthésistes, les réanimateurs, mais aussi avec les chirurgiens. Il y avait des chirurgiens présents, il y avait une équipe de radiologues qui était présente parce qu'ils étaient dans un resto juste à côté. C'est un quartier très populaire et donc très très vite, les patients ont pu être pris en charge. Donc ça a été vraiment toute la première heure où on a eu tous les patients du Carillon, beaucoup de patients du Carillon qui sont arrivés. Et puis après, on a eu aussi des victimes des autres lieux de fusillade, s'est fini vers 11h, 23h. Et ensuite, on nous a annoncé que peut-être on allait avoir les victimes du Bataclan. Les victimes du Bataclan ne sont pas arrivées puisqu'ils ont été pris en charge dans d'autres établissements.
Alors justement, un des points clés, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est cette notion de triage qui peut se faire soit dans le cas de l'urgence extrême, c'est-à-dire les blessés sont arrivés directement, soit en pré-hospitalisation, c'est-à-dire sur les lieux même de l'attentat, où les équipes en particulier de pompiers et d'autres qui étaient là ont commencé à distinguer ceux qui ont une situation vitale et ceux qui ne l'ont pas. Il n'y a que ceux qui ont une situation vitale qu'il faut en premier lieu, en tous les cas, diriger. C'est l'application de la médecine de guerre à une situation qui n'était pas très connue, mais qui devient nécessaire.
Et le préhospitalier, notamment Pierre Carly, est vraiment très dedans. Il y avait une simulation le matin par rapport à d'éventuels attentats et surtout des attentats multisites. C'est vrai que ça, c'est une notion qui est très importante. Donc, par rapport à ce que vous disiez, oui, il y a des plans médicaux qui sont avancés. Ça veut dire que là, tout de suite, à une zone sans risque pour les patients, parce qu'on ne savait pas encore s'il allait y avoir d'autres explosions ou fusillades, en fait, va y avoir un tri. Et c'est là où les SAMU vont directement intervenir, où certains patients vont pouvoir être mis de côté dans d'autres endroits, mais où, en fait, l'intervention ne va pas être par des SAMU. En fait, ce qui est important, et ça, Pierre Carly nous l'a bien...
C'est le créateur et le directeur du SAMU.
Voilà, oui, le directeur du SAMU. C'est vrai que pour lui, c'est quand même, il faut faire très, très attention à la sécurité. Un des premiers points, c'est ne pas intervenir sans avoir réfléchi. Là, c'était vraiment, on était sans information. C'était, est-ce qu'il y a encore des terroristes? Est-ce qu'il y a encore des notions de fusillade ou de bombes qui vont arriver? Et donc, pour lui, c'était aussi d'avoir des équipes en réserve. C'est vrai que ça, c'est primordial. C'était de dire, attention, le quartier... Et c'est vrai, quand on voit ce qui s'est passé, le quartier Est et le Nord avec Saint-Denis ont été très impactés. Et en fait, l'Ouest de Paris n'a pas été impacté.
Mais il y avait quand même une équipe en réserve à l'Ouest, au cas où. C'est l'organisation, parce qu'on ne sait jamais.
Voilà. Et à 3h du matin, les équipes étaient de nouveau prêtes à intervenir pour le cas où.
Et même, on a une possibilité dans l'organisation même de ce genre de choses de faire appel à d'autres SAMU de province qui peuvent éventuellement venir en deuxième ligne. Le problème que vous avez eu, à part vous avez eu beaucoup de problèmes, évidemment. D'abord, on peut souligner, je dirais, le dévouement et l'engagement, bien sûr, du personnel médical et paramédical. Mais vous avez eu aussi à régler le problème des familles dans cette panique.
Tout à fait. Et ça, alors, si tout au départ, les victimes arrivaient, très vite, on s'est trouvé exposé, et en premier lieu, beaucoup par des appels de familles qui habitaient la province et qui, d'un seul coup, entendaient par les médias, parce que ça a été très, très vite médiatisé, donc qui nous appelaient en disant « Est-ce que vous avez tel nom ?» Eh bien non, on n'avait pas ces noms-là, ou on les avait. Une des chances qu'on a eues sur l'hôpital Saint-Louis, c'est que toutes les victimes ont pu être identifiées, donc on avait un nom. Mais ça n'a pas empêché donc les gens d'abord au téléphone, et puis après, comme le téléphone était sans arrêt occupé, aux familles de venir, aux proches de venir. Et c'est vrai que ça a été un moment assez dur pour tout le monde, enfin pour l'équipe, en tout cas pour ceux qui étaient au niveau de l'accueil, parce que c'était des familles complètement, enfin qui étaient retournées, parce qu'elles venaient à minuit en disant « Mais si, c'est sûr, vous l'avez ». Et puis à 7h, ces personnes revenaient avec une photo en disant « Mais si, c'est sûr, vous l'avez ». Et ça, c'est vrai que c'était compliqué pour nous, puisqu'on était sûr de pas avoir ces gens-là. Il y avait une cellule qui s'est mise en place, mais le numéro de téléphone, pareil, était très, très saturé. Et c'est vrai que jusque toute la fin de la nuit, pour nous, ça a été de renseigner les familles et les proches. Et ça, c'était quelque chose qui a été compliqué au départ et après qui a pu être régulé parce qu'il y avait un numéro avec beaucoup de personnes qui étaient présentes pour répondre.
Alors, il y a des fois des petites choses qui sont fondamentales. Par exemple, quand les ambulances arrivent, il faut qu'elles se garent. Ça a l'air de rien, mais il faut que quelqu'un, et à la pitié en particulier, quelqu'un s'est dévoué tout de suite pour organiser un peu l'arrivée. Il y a des chasubles, par exemple, de couleur qui ont été proposées dans un hôpital pour que l'équipe qui suit tel ou tel patient soit bien identifiée et qu'ils se reconnaissent eux-mêmes, parce que les gens, ils arrivent, ils se connaissent pas forcément. Ils vont faire une équipe entre l'anesthésiste, entre le chirurgien, mais là, il y a tellement de monde qui arrive qu'ils ne savent pas forcément qui est qui.
Tout à fait. Alors, c'est vrai que nous, sur Saint-Louis, vu la rapidité à laquelle ça s'est fait, nous n'avons pas pu justement prévoir toutes ces personnes. Très vite, il a fallu se débrouiller un peu. Et c'est sûr que la sécurité a été un point qui a été beaucoup soulevé quand on a fait des débriefings en disant attention, parce qu'à un moment, on n'arrivait plus du tout à savoir qui était qui. En revanche, et c'est vrai que surtout ce qui était plutôt rive gauche, la HEGP, la Salpêtrière, ils ont pu préparer ces venues. Donc, il y a eu toute désorganisation, puisque tout ça est inscrit dans le plan blanc.
Justement, qu'est-ce que c'est que le plan blanc ?
Le plan blanc, c'est quelque chose qui va être mis en place quand il va y avoir un afflux de patients et qu'il y a un risque sanitaire qui est exceptionnel. Donc en fait, à partir de ça, c'est un plan général au niveau du siège de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Et après, il va y avoir des plans blancs qui vont être déclinés pour chaque établissement.
Donc c'est la libération des lits.
Tout à fait, c'est de faire, parce que dans un service d'urgence, il y a des héliportes, donc il faut absolument évacuer les patients de manière à pouvoir laisser les urgences pour les victimes.
C'est-à-dire que si le plan blanc est déclenché, chaque hôpital sait ce qu'il doit faire.
Tout à fait. Et même avant qu'il soit déclenché, puisqu'il a été déclenché à 22h34, la plupart des établissements Saint-Antoine, qui se trouvent aussi tout à côté des lieux de fusillade, avaient déclenché leur plan blanc parce qu'il faut une cellule de crise, parce qu'il faut... Il y a beaucoup d'acteurs et c'est vrai que l'organisation est primordiale. Il y a les directions, mais il y a aussi tous les chirurgiens et l'encadrement. Et c'est vrai qu'il faut vraiment une organisation qui soit claire pour pouvoir bien prendre en charge les patients.
Alors, dans cette aventure, entre guillemets, bien sûr dramatique, beaucoup de personnes se sont posées la question, bilan positif et bilan négatif de l'action médicale. Essayer de réfléchir sur ce qui a été fait le plus correctement possible dans ce drame et ce qui mérite d'être amélioré. Et à ce sujet, les Annales françaises de médecine d'urgence viennent de sortir un numéro fin janvier, où beaucoup d'intervenants reprennent les différentes situations. Pour ceux que ça intéresse, c'est très très bien fait, pour essayer de mieux faire encore, je dirais, on peut espérer qu'il n'y aura pas de prochaine fois, mais il faut quand même tout envisager, et donc il y a une espèce de bilan positif négatif. Parmi ces points, un des points, pour essayer de permettre une meilleure résilience sociale, c'est-à-dire une meilleure restitution de la force de la société, il y a tout un tas de secouristes ou d'organismes qui essayent de développer, parce qu'il y a une demande, c'est-à-dire que beaucoup de gens, comme vous et moi, veulent être formés au premier secours. Et donc, il y a des plans qui se font par différents organismes pour former au premier secours. D'ailleurs, une des choses qui, c'est des choses vraiment importantes, par exemple, quand les pompiers arrivent, ils ont maintenant des trousses spéciales, hein, pour, par exemple, arrêter les hémorragies avec des garrots. Il y a donc toute une façon, si vous voulez, de prévoir des petits détails. C'est pour ça que je les cite un peu, comme l'histoire des chasubles, comme tout ça, pour montrer que l'efficacité passe aussi par là, et à quelques minutes près, ça peut être dramatique ou moins dramatique. Ça l'est toujours dans ce cadre-là, mais on peut essayer de mieux faire. Est-ce que vous avez retrouvé la cohésion de votre équipe à ce moment-là, dans quelque chose qui les a transcendés?
Je pense que quand on est sur l'action, en fait, c'est vrai qu'on est dans ce qu'on fait. On n'avait pas d'informations et nous, on avançait. Le but, c'est de pouvoir permettre à des gens de vivre normalement. Et oui, il y a un moment où on s'est posé et c'est là où ça a été compliqué pour plusieurs soignants. Tous les gens, les infirmiers qui étaient là dès l'arrivée, c'est vrai que là, il y a eu un moment où ils se sont rendus compte. Où on se rend compte que c'est grave, où on se rend compte que, il y a quelque chose qu'on a touché, qu'on nous a pris. Je veux dire, nous, le petit carillon, au niveau de l'hôpital Saint-Louis, c'est l'endroit où on va boire le café, où on va faire la fête. Et c'est vrai que quelque part, c'était plus qu'une fusillade, c'était on nous avait pris quelque chose. Donc, c'est vrai qu'avec les équipes, là, les débriefings ont été très, très importants, parce que, il faut voir ce qui a bien marché, bien sûr, hein, ils ont tous très bien travaillé. Et je pense que ça, il faut être reconnaissant par rapport à nos équipes, mais il faut aussi pouvoir se dire la prochaine fois comment on fera mieux. C'est vrai, comme vous l'avez signalé, il y a des choses au niveau informatique, au niveau sécurité qui n'ont pas forcément été bien, mais je pense que c'est vraiment, il faut la notion
la téléphonie aussi, hein,
oui, la téléphonie qui nous sur Saint-Louis non, et on a des problèmes, on a SFR, donc quand on n'a pas SFR c'est difficile d'avoir des informations. Et c'est vrai que je pense que c'est vraiment au moment où d'un seul coup on va se poser et on va là commencer à avoir toute cette atrocité. Je veux dire, sur le moment on s'en aperçoit pas, et c'est vrai que par exemple quand on a fait des débriefings avec les équipes de jour qui n'avaient pas été concernées, c'est vrai qu'elles avaient eu très peur par rapport à leurs collègues. Je veux dire, comme je vous l'ai dit, les collègues sortaient à ce moment-là, traversaient, et finalement, c'est cette cohésion de beaucoup ont eu peur en disant mais on avait peur, un tel passait par là. Et donc c'est cette cohésion, il faut vraiment, elle est très très importante, et c'est pour ça qu'on a pu faire des débriefings, et je pense que c'est qui ont permis à tout le monde de pouvoir s'exprimer.
Alors justement, les débriefings, donc c'est important pour les équipes médicales de pouvoir s'exprimer. C'est important pour les familles, pour tous ceux qui sont autour d'une façon ou d'une autre touchés. Et là, je me tourne vers le professeur Louis Géhel, qui est psychiatre, qui est chef de service aux Antilles, de psychotomatologie. Ça fait longtemps que vous essayez de travailler dans ce domaine. Vous êtes président de l'association de formation et de recherche des cellules d'urgence médico-psychologiques, et vous êtes vice-président fondateur de la fédération Trauma-Suicide Liaison Urgence. Vous avez fait de nombreuses conférences françaises et internationales, vous avez de nombreuses publications, et vous avez un livre qui s'appelle Psychotraumatologie, que vous avez écrit avec Gérard Lopez chez Duno, et qui essaye de donner une aide médico-psychologique ou sociale à toute personne souffrant de traumatisme. Vous avez été au début de ce projet de création des CUMP, ce qu'on appelle dans le langage, qui a été créé en 97, et j'aimerais que vous nous disiez comment c'est venu, où est-ce qu'on en est, et qu'est-ce qu'on peut faire encore de mieux.
Merci. Bonjour à vous tous, mesdames et messieurs, bonjour aux auditeurs de France Culture, et vous dire combien je suis honoré d'être dans cette salle magnifique avec vous pour parler de ce thème si important, si complexe, et dans lequel tant de souffrances persistent encore aujourd'hui parmi ceux qui ont été choqués, bouleversés par des événements comme celui qu'on vient de citer. Mon parcours professionnel m'a conduit à travailler dans les SAMU depuis les années 94-95. La première intervention que j'avais faite, c'est en 1994, après l'attentat qu'il y avait eu d'un avion d'Air France détourné en provenance d'Algérie, dans lequel c'était une des premières fois qu'il y avait une mobilisation des SAMU pour se dire les blessés physiques sont morts, il reste des personnes qui sont blessées psychologiquement puisqu'ils ont été choqués par le comportement des terroristes et la tuerie à laquelle ils avaient assisté. Et puis il y a eu ensuite des attentats qui sont survenus 95-96. Et là, c'est vraiment la prise de conscience d'un homme politique, du président de la République de l'époque, le président Jacques Chirac, qui avait confié donc à monsieur Xavier Emmanuelli la question de la souffrance médico-psychologique à cette phase très précoce. Et là, ainsi, un dispositif innovant et innovant dans le monde a été fait, adossé au SAMU, et donc avec la conviction que cette souffrance extrêmement importante pour un nombre de victimes nécessite qu'il y ait une équipe médicalisée. Et là, la mission des cellules d'urgence médico-psychologique, c'est vraiment d'apporter un haut niveau de compétences professionnelles. Le soutien social va être apporté par les secouristes. Le rôle des cellules d'urgence médico-psychologique est composé de médecins, médecins psychiatres, de psychologues, d'infirmiers. C'est d'apporter une capacité d'évaluation avec la même réflexion que celle qui a été présentée par notre collègue sur l'évaluation des urgences et des critères de gravité. Donc c'est évaluer et c'est traiter. Et c'est ça vraiment les découvertes qui ont été faites depuis 20 ans, hein, que cette psychotraumatologie est née en France, mais également dans le monde où cette problématique avait déjà été identifiée, notamment chez les militaires américains aux États-Unis, où ils avaient découvert que la violence des traumatismes de guerre avait des conséquences graves sur la santé des militaires, qui se marquaient par notamment des flashbacks, des reviviscences en rapport avec la confrontation aux événements traumatiques, et une souffrance telle qu'elle pouvait conduire à une mortalité par suicide. Et ce chiffre terrible nous montre bien la gravité de la souffrance psychique, puisque on sait qu'il y a eu autant de morts sur le champ de bataille au Vietnam des soldats américains que de morts par suicide de ces soldats lorsqu'ils sont revenus aux États-Unis. Ce qui montre bien que la souffrance psychique de la confrontation à la terreur, à la violence, peut avoir des conséquences graves sur le plan de la santé psychique. Et aujourd'hui, ces cellules d'urgence médico-psychologique se sont structurées donc depuis 1997.
Donc il y en a une par département ?
Il y a une cellule par département, mais il y a surtout une cellule par région dans laquelle il y a des professionnels qui sont titulaires de cette fonction, avec des moyens qui restent modestes, hein, puisqu'en fait, il y a aujourd'hui 27 cellules régionales ou zonales, plus 10 cellules dites renforcées, dans lesquelles chaque cellule, en termes de professionnels, est composée de 3 personnes à mi-temps. Donc c'est vraiment des moyens modestes qui ont été mis, mais quand même significatifs, qui ont permis de créer ce réseau et qui ont permis d'être mobilisés de façon extrêmement rapide dans les heures qui ont suivi notamment l'attentat du 13 novembre, avec une singularité propre à la dimension de la souffrance psychique, c'est que ce besoin d'aide médicalisée persiste au-delà des premières heures. Les premières heures, la priorité est donnée à l'urgence vitale. Très vite, dans la deuxième vague d'intervention, les équipes des cellules d'urgence médico-psychologiques sont mobilisées. Mais après, l'intervention des cellules d'urgence médico-psychologiques a duré 15 jours. Et en 15 jours, à Paris, il y a eu 4000 consultations qui ont été faites et 1000 entretiens téléphoniques qui ont été faits pour apporter ces éléments que je vous disais de repérage. Ça veut dire repérer les éléments de gravité qui sont exprimés de différentes façons par les personnes qui souffrent et apporter des traitements avec des stratégies thérapeutiques qu'il faut savoir faire évoluer, qu'il faut connaître et dans lesquelles tout un travail de recherche conséquent à la fois sur le plan psychologique mais sur le plan pharmacologique pour identifier les stratégies qui doivent être efficaces pour réduire ce qu'on appelle la morbidité, ça veut dire la souffrance pathologique qui peut survenir pour un nombre important de victimes. Tout le monde ne va pas développer un trouble de stress post-traumatique. Selon les situations, on va avoir entre 20 et 40% des personnes qui vont présenter des troubles graves qui vont durer plus d'une année. Troubles graves marqués essentiellement par cette reviviscence hein, des images traumatiques, cet état d'hypervigilance permanent, de sursaut, d'être aux aguets en permanence. Et donc, vous comprenez tout de suite les conséquences que ça peut avoir dans la vie du quotidien, puisque c'est des personnes qui auront énormément de difficultés à ressortir de chez eux, puisque dès qu'ils vont ressortir, ils vont se retrouver confrontés à des stimuli qui réactivent le souvenir de cette violence. Les stimuli, ça va être un bruit, une bruit de voiture, un bruit, y compris une sonnerie de téléphone, peut, selon l'état d'hypervigilance dans lequel la personne se trouve, réactiver des flashbacks ou des reviviscences, et donc conduire à des attitudes d'évitement. Ça veut dire la personne évite tout ce qui pourrait l'exposer à réactiver ce souvenir traumatique.
Dans l'immédiat, comment se passe cette arrivée de personnes qui sont dans un état, dans quel état c'est de l'agitation, parfois au contraire la sidération, ce qu'on appelle, qu'est-ce que c'est que le malaise dissociatif?
La caractéristique vraiment la plus importante à identifier, c'est cet état dissociatif. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? La confrontation à la situation de la mort, et c'est bien ça dont il s'agit, hein. Nous savons tous que nous allons mourir un jour. Vous êtes au courant. La seule chose que vous ne devriez pas savoir, c'est quand vous allez mourir. S'il y en a qui le savent, c'est important qu'ils nous le disent vite, parce qu'on les aidera au mieux. Et on n'est pas programmé pour mourir plusieurs fois. On est programmé pour mourir une fois. Et ce qui se passe après la mort est de l'ordre de conviction personnelle, de croyance, mais on n'est pas programmé pour ça. Ce n'est pas représentable de vivre après sa mort. Quelques-uns l'ont fait, on en parle longtemps après, et on n'est pas sûr que ce soit, en tous les cas, partagé par tous. Ça veut dire que on est face à des personnes qui, là, dans cet exemple terrible de ces petits restaurants, du Bataclan, des personnes qui ont eu la conviction que c'était maintenant qu'ils allaient mourir, quoi. Et ils ont vu leur mort. Ils se disent, c'est maintenant que je meurs. Ils ont pu envoyer parfois des messages terribles. Ils disent, je meurs maintenant. Et beaucoup sont morts. 130 personnes sont mortes ce 13 novembre. Mais beaucoup ont survécu. Et ont survécu à leur propre mort. Et donc, ils se retrouvent là, dans les phases immédiates. C'est le terme, à mon avis, le plus simple à utiliser. C'est le terme de choc psychologique. Ils sont choqués, ils sont bouleversés, ils sont désorganisés. Et la première réaction que l'on a, lorsque l'on est face à une situation insupportable en termes d'acceptation, c'est de se dire, et le plus grand nombre d'entre vous on l'a fait, quand on nous apprend une mauvaise nouvelle, on dit « ce n'est pas vrai ». Voilà. Ce n'est pas vrai, c'est une façon de se déconnecter de la réalité, parce qu'on trouve cette réalité insupportable. Et donc, l'état de choc est caractérisé par, dans sa forme sévère, par cette conviction d'irréalité que les personnes ont. C'est un cauchemar que je suis en train de vivre, ce n'est pas possible ce qui m'arrive, c'est irréel, et sont dans des pensées qui les déconnectent de la réalité. Et ça a une utilité, même si c'est un mécanisme très archaïque, hein, sur le plan dans l'évolution de l'espèce humaine, ça a une utilité parce que à ce moment-là, lorsque les personnes sont blessées physiquement, la douleur n'est pas perceptible. Et donc on voit des gens qui disent « non, j'ai rien eu, j'ai pas compris », alors qu'ils ont reçu une balle, ils ont du sang qui coule, ils sont gênés par peut-être un écoulement un peu liquide, un peu chaud, qui dégouline sur leurs jambes, et ils n'ont pas senti qu'ils avaient une balle qui avait traversé un membre, le thorax, l'abdomen. Et si on leur demande s'ils sont blessés, ils pourront vous dire « non, ils ne ressentent pas la douleur ». C'est ça qui explique bien, je trouve, la dissociation, ça veut dire cette déconnexion entre la réalité et à la fois ma pensée et mes sensations. Et à la fois, vous voyez que ça peut être utile, de cette déconnexion, ça permet de pouvoir, de façon automatique, avoir des comportements. Et là, on peut avoir une dissociation qui peut être adaptée, et donc là, on est sur un processus qui est plutôt positif, si la personne arrive à fuir. Mais lorsque l'état est pathologique, c'est la personne qui va se trouver tellement dissociée qu'elle est pétrifiée, incapable de bouger, il y a une sidération, à la fois sur le plan de la pensée, mais également sur le plan moteur, hein, qui est complètement le terme le plus usuel dans le langage courant, c'est le terme de pétrifier, tellement la peur submerge l'individu. Et il peut y avoir également, ce qui complique les choses pour les secours, une agitation psychomotrice, hein, les gens qui vont déambuler, y compris qui peuvent se mettre à nouveau en danger sur la zone d'exposition.
Alors, deux questions, est-ce que c'est des entretiens individuels, est-ce que c'est des entretiens collectifs dans ces cas-là que vous développez, vous adaptez à la situation, qu'est-ce que vous préconisez, et quand y a-t-il utilisation de médicaments, de pharmacologie, dont certains d'ailleurs, il faut faire attention, ne sont pas du tout recommandés, bien connus comme des anxiolytiques, peuvent aggraver les choses. Donc on reste dans le domaine médical de la prescription, c'est juste pour faire passer cette notion.
Alors, sur le plan pharmacologique, aujourd'hui, il n'y a aucun médicament qui a démontré une efficacité sur la réduction des troubles de stress post-traumatique par une prise immédiate. Il y a plusieurs pistes, plusieurs hypothèses, des travaux pilotes, mais aujourd'hui, il n'y a aucune recommandation officielle. Un usage fréquent des benzodiazépines peut se justifier par moment, mais doit être bien pesé, mais ça n'améliore pas forcément le risque évolutif. Et donc, c'est vraiment une décision qui doit se faire au cas par cas. Et en privilégiant en priorité l'intervention individuelle et l'intervention en acte médical, qui peuvent être par un médecin ou par un psychologue, pour toutes les situations sévères, hein, dans lesquelles c'est un entretien individuel qui va être préférable. Si la personne est en groupe avec d'autres personnes victimes, on va pouvoir les laisser ensemble et leur apporter une intervention spécialisée. Et ce qui va être important, c'est pas seulement de faire parler les gens. Souvent on dit il faut parler, ça fait du bien, ça va comme si on allait expulser quelque chose du trauma parce qu'on va en parler. Ce qui fait du bien aux personnes, ce n'est pas de parler, c'est d'être réorganisé un minimum pour essayer de réduire cette intensité de la détresse émotionnelle à laquelle ils sont confrontés. Et l'objectif de l'entretien, qu'il soit individuel ou à plusieurs personnes, s'ils sont plusieurs à ce moment-là, c'est toutes les stratégies psychologiques ou pharmacologiques qui vont réduire l'intensité de la douleur émotionnelle auquel la personne victime a été confrontée.
Pas facile non plus pour les médecins que vous êtes, entre compassion, neutralité, c'est difficile à gérer pour soi de recevoir tous ces témoignages, c'est pas du tout évident. Juste un mot pour conclure, mais là aussi j'espère que nous reviendrons une autre fois. Vous développez un projet de création de centre de référence régional des psychotraumatismes en général?
Absolument, absolument. Aujourd'hui, la réponse des cellules d'urgence médico-psychologique a montré une efficacité, une capacité de réponse à la phase immédiate. On est sur un déficit maintenant de réponse sur les suivis thérapeutiques sur le moyen et long terme. Et on recommande la création de centres ressources du psychotraumatisme pour l'ensemble des psychotraumatismes. Il faut bien rappeler que là, on est sur un événement gravissime à caractère collectif. Les événements traumatiques les plus fréquents sont des événements traumatiques individuels, en particulier les agressions sexuelles, l'inceste, qui est un des traumatismes les plus graves et dans lequel 3 à 15% de la population française, selon les études, est touchée par ce problème de l'inceste. Les médecins, les équipes médicales dans leur ensemble sont encore en difficulté pour les traiter avec une grande hétérogénéité de réponses et de ressources sur le territoire. Donc on souhaite qu'il y ait un centre ressources, qui est une mission de ressources de soins, de ressources en termes de recherche et de ressources en termes de formation pour les professionnels. Ces centres de ressources existent dans d'autres approches, notamment pour les auteurs de violences sexuelles. On fait cette recommandation à notre direction générale de la santé.
Alors, vous avez évoqué donc les troubles individuels, personnels, mais aussi les troubles collectifs. Et dans le collectif, j'ai demandé au professeur Henri Corne de nous rejoindre. Le professeur Henri Corne est membre de l'Académie des sciences. Et il y a, depuis le 30 novembre, a été mis en place le Conseil national de la biosécurité en lien avec l'Académie des sciences. Et qu'est-ce que ce Conseil national de biosécurité? Le professeur Henri Corne va nous le dire, puisqu'il faut s'attendre, comme je le disais en introduction, à peut-être d'autres types d'agressions plus collectives. Il y a donc un livre qui a été écrit en 2008 et qui méritera sans doute d'être actualisé par le professeur Henri Corne, Menaces biologiques, biosécurité et responsabilité des scientifiques. Donc on a là les scientifiques, les médecins qui essayent de prendre conscience et d'avoir sensibilisé, vous avez été un de ceux qui ont essayé de sensibiliser nos politiques pour cela. Vous êtes professeur honoraire à l'Institut Pasteur, directeur de recherche émérite, neurobiologiste, mais là c'est surtout sur ce double visage finalement de la médecine qui se développe et qui comprend un peu mieux les mécanismes de la virologie, par exemple, ou comment combattre, mais qui pourrait être l'autre visage, comme dans tout, comme l'industrie nucléaire, etc., pourrait être aussi utilisé à des fins qui ne sont pas du tout recommandées, bien sûr. Qu'est-ce qu'on est capable de faire dans le bien et dans le mal, dans la modification des agents pathogènes, et comment peut-on être sensibilisé, je dirais, à ce risque-là, puisque c'est un nouveau risque qu'il faut aussi prendre en compte?
Très souvent, les gens imaginent que quand on leur parle de risque de guerre biologique ou chimique, il s'agit d'événements fantasmatiques qui ne les concerneront pas. D'abord, l'histoire nous enseigne que tous les grands pays industriels ont eu des programmes redoutables de développement d'armes biologiques. C'est vrai pour les États-Unis, c'est vrai pour l'URSS, c'est vrai pour la France, c'est vrai pour la Grande-Bretagne, c'est Bon. Et ces programmes visaient à militariser des très grandes maladies gravissimes, comme par exemple la variole, la peste, le choléra, les fièvres hémorragiques, la tularémie, enfin, on peut en citer un grand nombre. Militariser aussi des toxines. 365 toxines animales peuvent être utilisées à des fins militaires. On peut en modifier le génome et les rendre encore plus dangereuses qu'elles, si elles étaient originales, si l'on peut dire. Alors, il faut se rappeler que toutes ces armes ont été déjà employées, et les armes chimiques, bien entendu. Alors, il faut se rappeler que toutes ces armes ont été utilisées soit dans les guerres entre États, soit par des groupes terroristes. Et enfin, il faut se rappeler que nombre d'entre elles sont faciles à militariser. Donc le danger est réel, même si un certain nombre de mesures ont été prises contre, j'en dirai peut-être quelques mots tout à l'heure. Alors le risque s'accroît encore dans le cadre de recherches dites duales, c'est-à-dire des recherches, par exemple dans les biotechnologies, par exemple les recherches modernes, qui visent à, en premier lieu à accroître le bien-être et améliorer la santé publique, mais qui peuvent être détournées de leur objet à des fins terroristes, à des fins militaires, à des fins malveillantes. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs aux États-Unis. Vous avez tous entendu parler de la crise anthrax, c'est-à-dire au charbon. Les lettres qui, en 2011, ont été envoyées à cinq personnes qui en sont mortes, mais à plus encore, qui ont vraiment défrayé la chronique pendant et qui ont... Il a fallu des années au FBI pour en retracer l'origine des spores. Elles provenaient d'un... Contrairement à ce que le gouvernement voulait dire, elles ne provenaient pas d'un d'Irak, mais elles provenaient d'un laboratoire militaire américain à Baltimore, enfin à côté, à Fort Detrick. Et une des leçons qu'on peut en tirer, c'est d'abord que tout est possible, et deuxièmement que bien sûr, il y a eu des victimes, mais l'impact psychologique, surtout, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, a été considérable. L'activité postale et un certain nombre d'activités ont été interrompues aux États-Unis pendant des semaines. Vous vous souvenez sans doute que le Premier ministre a prononcé, dans un de ses discours, a parlé du risque de guerre biologique et chimique. Ça a défrayé la chronique, beaucoup de gens ont été surpris et ils avaient tort. En fait, ces propos coïncidaient avec la mise en place, par un décret du 31 août 2015, donc c'est récent, d'un organisme entièrement nouveau en France, et je suis sûr que la majorité d'entre vous ne sont pas conscients de cet événement, d'un organisme entièrement nouveau, le Comité national consultatif pour la biosécurité, le CNBB. Alors, il a été, comme je l'ai dit, créé par décret. Il comporte 12 membres, 6 scientifiques de haut niveau nommés par l'Académie des sciences et 6 fonctionnaires au ministère en charge des affaires étrangères, 6 de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la santé, de la défense et de l'intérieur.
Professeur Kant, quelle est la mission de ce collectif?
Alors, j'en dis encore un mot avant de dire. Alors, tous les 12 membres sont habilités au secret défense et le comité est placé sous l'autorité du secrétariat général de la défense et la sécurité nationale. Avant de dire quelles sont ses missions, il faut dire que ce comité, et c'est un point intéressant pour vous, a fait suite à, comme l'a dit le professeur Friedman, à la publication d'un rapport de l'Académie des sciences intitulé « Menaces biologiques, biosécurité et responsabilité des scientifiques » qui est paru au PUF en 2008, dont je suis évidemment un des auteurs. Alors, ce rapport préconisait entre autres un forum national pour informer les citoyens des risques encourus, la création d'un comité de surveillance mettant en relation les scientifiques et les organismes de sécurité qui jusque-là n'avaient pas toujours vécu en bon terme. L'originalité, si vous voulez, c'est que les scientifiques vont travailler la main dans la main avec des services qui jusque-là ne leur faisaient pas tellement confiance. La réciprocité était vraie également. Ce comité d'experts choisi dans les principales disciplines scientifiques en sciences de la vie sera chargé, alors je lis là, parce que c'est, je serai chargé d'informer les pouvoirs publics et la communauté scientifique des détournements possibles d'usage des sciences du vivant à des fins malveillantes et ou dangereuses pour la santé publique. Il conduira des travaux de prospective de veille sur les recherches à caractère dual, j'en parlais dans un instant, menées dans les laboratoires en sciences de la vie, et il proposera des mesures propres à assurer la détection d'éventuelles menaces et leur traitement. Il veillera aussi au respect, par la France et par ses alliés, au respect des engagements internationaux qui sont le traité d'interdiction des armes chimiques et biologiques dont la France est signataire en 72-75 et celui d'interdiction des armes chimiques. Là, je dois dire qu'une des difficultés, une des grandes difficultés qui se pose à toute enquête sur les armes biologiques développées ici ou là, c'est que bien que les États signataires se sont engagés à interdire ce genre de recherche sur leur territoire, il n'y a aucune mesure de vérification.
Mais disons qu'il y a un problème politique là que vous soulevez.
Il y a un problème politique.
Il y a un problème politique qui nous dépasse. Pour rester dans le thème de la médecine, en deux mots, est-ce qu'on peut modifier des organismes? Est-ce qu'on peut créer des virus plus agressifs ou des organismes plus agressifs? Est-ce que c'est
tout
faisable?
À fait. Tout à fait. Par manipulation génétique, on peut.
Prenez le micro.
Par exemple, on peut prendre un virus ou une bactérie, manipuler son ADN, la rendre provoquer le fait que son action soit retardée, que soit masquée par un autre agent virulent, qu'elle soit sensible aux antibiotiques, qu'elle soit rendue plus virulente qu'elle ne l'était auparavant. Tout ça est possible et ça rend évidemment très difficile la détection des laboratoires qui éventuellement pourrait faire engager des recherches dans de telles directions.
Parce qu'il y a une espèce de sensibilisation qui est importante à tout le monde, vis-à-vis des scientifiques, de jouer sur la prévention de ce qui pourrait être fait, de ne pas faire tout et n'importe quoi,
oui,
et d'engager la responsabilité. Sur le plan curatif, c'est difficile d'anticiper, tout dépend.
Alors, bien entendu, alors, là on se trouve, alors je ne peux pas développer trop longtemps, malheureusement, mais on se trouve devant toute une série de dilemmes, comme par exemple, on cherche à comment concilier le fait que pour développer un traitement ou une technique curative ou un vaccin, on ait besoin de la toxine ou du virus ou de la bactérie qui souvent, si on la possède en quantité excessive, peut conduire à des malheurs en sens inverse. C'est un dilemme qui est très difficile pour les laboratoires qui sont engagés dans la recherche de vaccins ou de traitements dans le genre.
Nous allons devoir interrompre compte tenu du temps, mais comme je l'ai dit, nous reviendrons sur cette thématique parce qu'elle est très vaste et extrêmement importante. Je crois que le message aujourd'hui, c'est la sensibilisation à ce que c'est possible. C'est relativement facilement possible, mais il y a une réaction déjà de prise de conscience des scientifiques et des politiques,
voilà.
Et il y a quelque chose à développer sur ce thème qui ne doit pas être masqué, il existe réellement et fait partie des dangers. Nous reviendrons.
Tu le résumes bien mieux que moi tout ça.
Non, c'est après avoir écouté. Hein. Serge Effez, psychiatre, psychanalyste français, responsable de l'unité de thérapie familiale dans le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, Vous intervenez dans de nombreux colloques nationaux et internationaux sur les problématiques du couple et de la famille. Vous avez de nombreuses publications à votre actif. Vous êtes un des spécialistes de l'adolescence. Et en ce qui concerne notre réunion aujourd'hui, vous participez au Centre de prévention des dérives sectaires liées à l'islam, qui a été créé en avril 2014 par l'anthropologue Dounia Bouzahar, dont je conseille, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, de lire le livre publié aux éditions de l'Atelier en 2015, « Comment sortir de l'emprise djihadiste ». Il y a, vous l'avez noté dans certains de vos écrits, pour les adolescents qui peuvent être sensibilisés aux paroles de ce mouvement djihadiste, une espèce de deuxième vie virtuelle cachée qui va faire son chemin progressivement. Une des questions donc qui a été posée souvent, c'était est-ce que la sensibilisation d'un individu souvent jeune à ce genre d'emprise, hein, puisqu'il s'agit d'une emprise, et d'ailleurs vous l'avez comparé tout en la différenciant avec l'anorexie mentale, avec la drogue, avec le recours à toutes ces addictions, est-ce qu'il y a donc un sous-jacence, on va dire, psychiatrique d'après les contacts que vous avez eus et le travail que vous effectuez dans ce groupe justement du Centre de prévention des dérives sectaires?
Il y a bien évidemment une dimension psychique, comme dans toute action humaine. S'engager dans un processus radical, s'engager dans le djihad, c'est multifactoriel. Ça a à voir avec des facteurs sociaux, des facteurs sociétaux, des facteurs de biographie, des facteurs culturels, mais aussi bien évidemment des facteurs psychiques. Et ma grande surprise, quand j'ai commencé à m'occuper de jeunes qui s'étaient radicalisés, ça fait 2 ans maintenant, c'est de voir au fond à quel point ils ressemblaient à tous ces adolescents dont je m'occupe depuis une trentaine d'années maintenant, et qui présentent certes des fragilités, mais des fragilités de l'adolescence, qui cherchent des réponses, qui peuvent être une quête, qui peuvent être une quête d'absolu, qui peuvent être une quête d'identité, qui peuvent être le fait de se sentir mal dans le groupe auquel ils participent, le fait d'avoir des difficultés par rapport à la maturation de leur corps, le fait d'avoir vécu des traumatismes pendant leur enfance, le fait d'être dans des milieux familiaux un petit peu complexes. Bref, tout ce que j'ai toujours rencontré en psychopathologie de l'adolescence, eh bien, c'était là, présent pour ces adolescents qui, un jour, presque par hasard, pour une grande partie d'entre eux, rencontraient de façon virtuelle, sur Internet, des rabatteurs qui savaient utiliser leurs failles, qui savaient utiliser leur fragilité et surtout qui savaient les repérer. Je pense à une jeune fille, par exemple, qu'on a récupérée à la frontière au moment où elle allait partir en Turquie, qui avait 15 ans et demi à l'époque, et c'était une jeune fille d'une famille française, laïque, comme beaucoup de familles, une bonne famille, je dirais, mais qui toujours avait des difficultés avec son corps, des difficultés avec le groupe, et puis qui avait des envies comme cela de s'engager, des envies de devenir quelqu'un qui sauve le monde, vous savez. Et elle a écrit sur Internet « Je me sens seule, personne ne me comprend, je trouve que mes amis sont très futiles, j'aimerais faire quelque chose d'important ». Ben voilà, ça a suffi pour qu'elle rencontre des rabatteurs qui lui disent « Ah ben je t'ai reconnu, je sais que tu as envie de devenir quelqu'un, j'ai compris que tu étais quelqu'un de fragile ». Les sectes ont toujours procédé comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont une finesse.
C'est très proche du mouvement sectaire, bien sûr.
Absolument, c'est très proche du mouvement sectaire, ils ont une finesse psychologique pour repérer ces failles, pour repérer ces désarrois, et pour les amplifier, et pour surtout donner des illusions de réponse. Et donc ces jeunes-là, ils s'engouffrent là-dedans, et il ne s'agit absolument pas d'un engagement religieux. Ça n'a strictement rien à voir, même si ça en prend la forme. C'est, là je rejoindrai le mot d'Olivier Roy, c'est davantage une islamisation de la révolte, si on peut dire. C'est-à-dire ce sont des révoltes adolescentes ou des révolutions adolescentes qui essayent de trouver une réponse. Alors bien évidemment, ça n'est pas la même chose si on est un jeune d'une famille laïque, catholique ou juive, un jeune de deuxième génération de famille musulmane. L'histoire ne se répète pas de la même façon pour eux. Mais ces jeunes de familles musulmanes que j'ai rencontrés ont, dans la plupart des cas, des parents qui pratiquent un islam modéré, qui est celui de qui est le plus souvent pratiqué en France. Donc, ils sont dans le même mouvement de révolte, mais qui a peut-être plus à voir avec leur histoire, avec le fait qu'ils sont de deuxième génération, le fait qu'ils peuvent avoir envie de venger des sentiments d'humiliation, des choses comme ça. Donc, si on trouve des logiques sociétale un petit peu plus forte. Mais chez ces autres jeunes que je vois, c'est vraiment une crise d'adolescence qui cherche une réponse, qui cherche une voie et qui tourne mal.
Alors là, on est, je veux dire, au début du début, c'est-à-dire cette bascule. Puis ensuite, effectivement, il y a tous les mécanismes dérabateurs, comme vous dites, qui vont monter d'un cran jusqu'à la réalisation, l'emprise pratique et concrète qui devient redoutable. Est-ce qu'à ce moment-là, cette perte, on va dire, du discernement, je dirais, est quelque chose qui est encore rattrapable?
Oui, tout à fait, parce qu'il s'agit, alors je reprendrai le mot de mon collègue Louis Géel, c'est-à-dire c'est une dissociation. Et c'est vrai que le rapport avec Internet et le rapport avec les images produit des états qui sont proches des états dissociatifs. Vous savez, un petit peu comme les états d'hypnose. Il y a quelque chose qui fait que toute une partie de votre esprit est absorbée par ces images, absorbée par ces discours, et que les phénomènes habituels de croyance deviennent des phénomènes de conviction. C'est-à-dire qu'il y a un biais cognitif qui se met en place, et on finit par ne plus sélectionner que ce qui va dans le sens de ce que vous avez envie de croire et de ce que vous avez envie de savoir. Donc, il y a comme un mur qui se créent dans leur esprit, et une partie d'eux-mêmes est entièrement engagée dans ces nouvelles convictions et dans le fait d'adhérer surtout aux croyances d'un groupe, même si c'est un groupe virtuel. C'est-à-dire qu'ils se désaffilient, comme tous les adolescents, de leur famille, du discours de leur famille, des croyances de leur famille, pour s'affilier à d'autres croyances, et ça peut être très rapide et très brutal à ce moment-là, par ce biais d'Internet. Donc, si vous voulez, il y a une mue de la personnalité qui se fait très, très rapidement et très brutalement.
Est-ce que dans le livre, justement, il y a souvent mis en évidence des signes qui doivent alerter de cette mutation?
Voilà.
Est-ce que vous pouvez en dire un mot?
Justement, ce sont tous les signes de rupture.
Hein, c'est-à-dire que l'arrêt de la musique.
On arrête la musique, on arrête le sport, on arrête de fréquenter les jeunes qu'on fréquentait habituellement, on s'isole de plus en plus de la famille, on est de plus en plus devant les écrans, et puis peuvent apparaître des signes de pseudo-adhésion religieuse, c'est-à-dire faire sa prière cinq fois par jour, des ablutions, des purifications, pour les filles, évidemment, porter le foulard, ou porter le voile, ou même porter le voilement complet, pour des garçons, se laisser pousser la barbe, avoir certaines tenues vestimentaires. Donc évidemment, tous ces signes-là doivent interpeller. Mais pour revenir à votre question sur comment est-ce qu'on peut en sortir, justement, je dirais que la bonne nouvelle de cette dimension d'adhésion extrêmement rapide, extrêmement brutale, c'est que on peut aussi en sortir, et parfois plus rapidement que ce qu'on imagine, quand c'est cette dimension psychologique qui est au premier plan. Parce que tous ces indicateurs de rupture avec la famille, avec l'environnement, ils ont un sens pour ces adolescents. Encore une fois, il s'agit d'essayer de grandir. Il s'agit de trouver une identité pour eux, comme tous les adolescents. Ils se trompent de voie, mais ils se disent que là, dans cet engagement, ils vont trouver une autre appartenance identitaire. Or, moi, mon travail, ce que je fais depuis toujours avec les adolescents, depuis une trentaine d'années maintenant, c'est la famille, c'est les entretiens familiaux, c'est la thérapie familiale. Et d'ailleurs, c'est cette unité de thérapie familiale que je dirige à la Salpêtrière qui a ouvert ses consultations depuis quelques mois maintenant à ces jeunes radicalisés. Pourquoi la famille? Parce que justement, c'est des jeunes qui cherchent à sortir brutalement de leur cadre familial, et quand on les remet dans leur cadre familial, avec leurs parents, leurs frères et sœurs, on les remet dans les conditions émotionnelles desquelles ils sont sortis brutalement. Donc on partage, on essaie de leur refaire partager avec eux ces liens familiaux, ces appartenances familiales, ces émotions familiales, même si toutes les familles ne sont pas parfaites, même s'il peut y avoir des raisons dans la famille qui ont produit cette crise, mais tout de même, ces familles continuent à avoir des compétences, se sont mobilisées autour de l'adolescent. Et ce que j'ai toujours fait avec des adolescents anorexiques, des adolescents toxicomanes, des adolescents qui se scarifient, des adolescents qui ont des conduites à risque, c'est utiliser la mobilisation familiale, l'émotionnalité familiale, pour les replonger finalement dans ces relations antérieures et leur permet de redémarrer différemment.
Donc là, on est dans un acte de prévention et vous avez eu de nombreuses familles, justement, ou parents, qui ont téléphoné ou qui téléphonent au centre de prévention des dérives sectaires. C'est quelque chose qui a pris de l'ampleur, incontestablement.
Qui a pris une grande ampleur. Et puis, on travaille directement avec le numéro vert de la, que la préfecture a mis en place, auquel les familles s'adressent lorsqu'ils sont en désarroi et lorsqu'ils s'interrogent, effectivement, sur le jeune.
Alors, la dernière étape, si je puis dire, heureusement faible, mais quand même redoutable, c'est de la radicalisation, c'est le passage à l'acte. Et le passage à l'acte va se faire avec des médications ou sans médication. On a beaucoup parlé du phénéthyline comme médicament pris par ceux qui passaient à l'acte meurtrier, avec un trafic absolument énorme de ce qui était commercialisé comme amphétamine sous le nom de Captagon. 11 millions ont été saisis récemment en Turquie, 15 millions de comprimés à Beyrouth, en Arabie Saoudite 22 millions en 2014. Il y a particulièrement au Moyen-Orient une diffusion de des amphétamines et il semble que celui qui a fait l'attentat en Tunisie, sur les autopsies qui ont été faites, ont montré qu'il y avait une imbibition. Est-ce qu'on a des renseignements sur les autres? Est-ce que vous avez des notions là-dessus d'une médicalisation finale, je dirais, au moment de cette tuerie?
Ben on a ce que vous venez de donner. Il y a, à ma connaissance, une médicalisation de plus en plus forte de toutes les situations de violence et de toutes les situations de guerre, hein, dans tous les pays, quelle que soit leur cause. Ces jeunes-là, lorsqu'ils doivent commettre des passages à l'acte extrêmement violents, bien évidemment, ils sont médiqués pour pouvoir le faire. Ça accentue encore plus cette dissociation dont on parlait tout à l'heure. D'abord, ça supprime la douleur, ça supprime l'angoisse, et puis ça permet de se cliver complètement pour être entièrement absorbé par cette dimension de l'action, de l'acting out.
Merci aux uns et aux autres. Voilà quelques touches sur les relations entre la médecine et la situation donc du terrorisme que nous avons vécu et que nous vivrons sans doute malheureusement encore. Quelques éléments qui ne résument pas tout. Merci à tous d'être venus et d'avoir communiqué votre savoir. C'était la table ronde, enregistrée lors du forum France Culture, l'année vue par les sciences, en partenariat avec l'université Paris-Sorbonne et avec le soutien du magazine Science et Vie, du rectorat de l'Académie de Paris et d'Universcience. Merci aux équipes de la Sorbonne et de Radio France qui ont rendu cet événement possible. Cette émission de René Friedman a été préparée avec la collaboration de Catherine Donnet, réalisé par Dany Journaud, avec en équipe de réalisation Jean-Philippe Thomas, Sébastien Huel, Tanguy Lecorneau, Jean-Pierre Zingue, Jérémy Thuil.